Mesdames et messieurs, tout d'abord mes remerciements à Anne et Eric pour organiser ce colloque formidable. Mon but ne serait pas de vous présenter les questions qui ont été abordées maintes fois, quel musée en Afrique, mais je vais vous présenter quelques exemples de coopération qui me semblent tout à fait significatifs au début du 21e siècle, et je vous laisse réfléchir vous-même après mon discours à quel musée on devrait penser. L'importance de la coopération internationale dans le domaine muséal est à maintes fois soulignée, mais quelle coopération pour quel musée? Dans un article paru le 29 juin 2006, quelques jours après l'ouverture du musée du Quai Branly, Madame Aminata Traoré, ancienne ministre malienne de la Culture, écrivait dans un article qu'un, je cite, « masque africain sur la place de la République » n'est d'aucune utilité face à la honte et à l'humiliation subies par les Africains dans le cadre d'une certaine coopération au développement. Alors, quelle coopération? Voici le Musée national du Mali, le 8 mars 1982. Ce beau musée s'est installé dans les nouveaux locaux construits en bonco stabilisés. En 2002, sous la présidence d'Alpha Omar Konaré, l'Union européenne finance l'extension du musée national, la construction de nouvelles salles et l'aménagement de locaux techniques et administratifs permettent la restructuration complète du musée et la mise en valeur sur ses pièces. Le musée en Europe est bien entendu l'héritier d'une histoire complexe et souvent tragique. Les collections acquises en Occident avant et pendant le temps colonial ont été ramassées, selon Michel Léris, dans 9 sur 10 cas par achat de force ou de réquisition. Je présente la fameuse image de l'expédition punitive de 1897. L'un des plus grands butins de guerre fut embarqué pour l'Angleterre et le gouvernement britannique vendait les œuvres d'art, y compris ses plus de 1000 plaques en laiton du XVIIe siècle, aux différents musées européens et à des particuliers. Voici encore une image du musée de Berlin qui vous présente comment on présentait l'Afrique en 1926. Et bien, je vais oser de parler encore une fois du Quai Branly, même si Michel Brent me tape sur mes pieds, dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire « Les musées au service du développement », la collection de masques Chivara du musée du Quai Branly a été présentée au musée national du 25 janvier au 24 avril 2011, ce printemps alors. Cette exposition avait été précédemment montée au musée du Quai Branly lors de l'inauguration en 2006. Alors 5 ans plus tard, une quarantaine de masques, autrefois collectionnés par les fonctionnaires français sous des conditions souvent pénibles, voir Afrique fantôme, où Michel Léris donne une idée comment travaillaient les missions ethnographiques sur terrain et avant tout dans les villages Bamana. Une quarantaine de masques alors ont retrouvé leur sol d'origine pour quelques mois. Les Bamako ont apprécié de pouvoir découvrir la diversité de styles et certainement aussi leur état de conservation. Les chiffres de visiteurs sont assez impressionnants. Plus de 25 000 personnes, dont 2500 scolaires, ont visité cette manifestation. Les scolaires avaient en plus suivi des visites guidées et des ateliers de dessin. Lors du vernissage, au mois de janvier, j'ai entendu une phrase assez étonnante, presque sibyllique, prononcée par Mohamed El Mokhtar, le ministre malien de la Culture. Je cite « Merci au Quai Branly d'avoir conservé cette collection pour nous ». Mais je pense que la présentation de cette exposition au Mali a réellement contribué à relancer le discours sur le retour des œuvres dans les pays d'origine. Cet échange s'est réalisé dans des conditions excellentes pour mes collègues muséales, transport sécurisé, bonnes conditions thermiques dans des salles d'exposition, présence d'un garde en permanence, présence du directeur du musée pour toutes les opérations de dédouanement et un conservateur à chaque manipulation d'objets. Il fallait peut-être dire ça à des collectionneurs privés à Genève. Il faut quand même ajouter que je vous ai présenté un modèle de coopération de grande taille, suite à la mauvaise conscience probablement et dans l'espoir d'améliorer les relations avec les pays d'origine. L'écoute de ce transfert d'expo, avec emballage, transport, assurance, mise en place, installation, ainsi que la production d'une très belle publication distribuée gratuitement aux visiteurs, les coûts s'élèvent pour Chivara à plus de 200 000 euros. J'aimerais vous présenter maintenant trois exemples de coopération de petite taille. Et jusqu'à ce jour, je trouve des projets réussis. Pendant quelques années, dans le cadre d'un projet de coopération entre musées suisses et musées en Afrique, la Commission suisse pour l'UNESCO a contribué annuellement la somme de 30 000 francs. Personnellement, j'ai assuré la coordination entre les musées pour ce projet. Et je vais mentionner les projets les plus importants. C'était le musée historique d'Abomey avec le musée d'ethnographie de Genève, le musée national du Mali avec le Muséum der Kulturen à Bâle, le musée provincial du Pony Gawa Burkina Faso avec le musée historique de Lausanne, le Herobot Museum en Namibie avec Basler Afrika Bibliographien et finalement le musée national d'Abidjan ainsi que le musée du palais de Fumban avec le musée Rittberg à Zurich. Voici le musée de poterie à Nsei au Cameroun qui a été construite avec une modeste somme de 15 000 francs offerte justement par la Commission suisse pour l'UNESCO. Ce bâtiment a vu ses jours de 2004-2005. Des expositions temporaires ont eu lieu dans une partie de la salle. Une autre partie est réservée à la collection de pots et récipients traditionnels. Alors, je pense que vraiment, avec ces petits moyens, on a fait une salle qui est absolument assurée contre vol, contre humidité. Et c'était un échec assez réussi. Si vous voyez les pots dans une cour voisine, ils sont encore utilisés et ils sont d'une grande beauté. L'inventaire de la collection de pipes est soigneusement enregistré par le conservateur et les pipes-là sont trouvées par les habitants de villages régionaux et le musée les paye entre 5 et 50 euros pour chaque pipe selon qualité. Ça, on peut discuter, mais c'est une façon de préserver les collections sur place. Le soutien du musée est assuré par la mission. Voici encore les enregistrements, l'inventaire très correct avec la provenance, les dimensions et l'entrée au musée. Le soutien du musée est assuré par la mission 21, autrefois mission de Bâle, qui gère sur place la fabrication artisanale de poterie, avec une distribution vers leur propre museum shop, mais surtout dans des musées dans le monde entier. Lorsque j'ai visité ce musée la dernière fois, il y avait trois grandes caisses destination Sydney, Australie. Et finalement, une vue de la poterie après la cuite, avec Ulrich Knecht, le responsable pendant de longues années de la Presskraft à Bamenda. Il organisait une exposition sur la poterie du Cameroun au musée Rittberg, qui peu après a été présenté dans les lieux du nouveau musée Ansei. Avec un tel partenariat, on essaie surtout d'atteindre des effets durables. Prochain exemple, il s'agit du musée provincial du Pony à Gawa, Burkina Faso. Inauguré en 1990, ce musée se compose de deux entités, un musée de l'habitat traditionnel et un musée ethnographique. Une vue de l'intérieur des salles avec la conservatrice du musée donne une idée de l'espace dans ce beau bâtiment colonial construit pour un médecin français autour de 1928. Suspendu au mur, vous remarquez des photos de Alfred Heim, géologue zurichois qui visitait le pays Lobi en 1934. Ces archives de photos importantes se trouvent à l'École polytechnique de Zurich. Et finalement, l'homme qui a pris l'initiative de ces coopérations, Olivier Pavion, ni archéologue ni ethnologue, mais historien, directeur retraité du musée d'histoire de Lausanne, devant une maison Lobi, reconstruite par des paysans de la région. Pour la rénovation du musée et le financement du mobilier, Olivier Pavian a touché d'abord 5 000 de la commission suisse de l'UNESCO, et après il a demandé la ville de Lausanne pour une contribution, et il a reçu à son étonnement la somme de 30 000 francs. Finalement, mon dernier exemple, c'est le musée du palais de Foumban. Il s'agit d'un des plus anciens musées de l'Afrique noire et compte plus de 3 000 objets d'art et pièces historiques de la culture Bamoun. L'ancien palais ayant brûlé en 1912, le roi Njoya a fait reconstruire le palais actuel en 1916-17 et le musée se trouve ici en haut, dans le deuxième étage, avec les fenêtres et les rideaux bien fermés. Une trentaine de vitrines financées par l'ambassade du Canada sont à disposition du musée. Dans une vitrine, le trône de la reine-mère Ndjapoundounke, hélas, en procès de décomposition en 2008. Trois spécialistes diplômés de l'école de restauration de Rikisberg, la Abeck Stiftung, ont passé en décembre dernier 3 semaines à Foumban et ont effectué des travaux de restauration. Elles ont vraiment travaillé jour et nuit pour terminer le trône de la reine-mère à temps. Vous les voyez, les deux à droite, avec des torches fixées au front pour avoir mieux, une lumière un peu meilleure. Les coûts totaux s'élevaient pour cette rénovation à 40 000 francs, ce qui vous semble peut-être beaucoup, mais si on compare ça avec un projet archéologique, je pense que c'est toujours modeste. Le financement de ces travaux a été couvert à moitié par l'Office fédéral de la culture et à moitié par une personne privée qui s'engage dans la Société des Amis du musée Rietberg. Aujourd'hui, dans le cadre de l'article 14 du LTBC, vous en entendrez davantage demain, l'Office fédéral de la culture est en mesure de soutenir la conservation des objets ou des monuments dans les pays d'origine. La coopération consiste, voici finalement la vue du trône fixé, les perles qui venaient du pays bohémien ainsi que de Venise du XVIIe, XVIIIe siècle ont été fixées et remises sur place, et on a essayé de ne pas surrestaurer avec les nouvelles perles chinoises. Cette coopération a aussi donné possibilité d'instruction pour les spécialistes sur place qui profitaient certainement de l'échange avec les experts européens. Et encore une belle image avec Sa Majesté le Sultan Ibrahim Bombo Djoya, le propriétaire de ce musée, avec les restaurateurs. Certainement, selon moi, une situation win-win. Cet objet unique, un masque Aum du même lieu de Foumban, porté par le chef des guerriers lors de son intronisation, a été montré comme prêtre au musée Rietberg en 2008. Après l'exposition, nous avons fait la restauration de l'objet par une spécialiste du Rautenstrauch Musée de Cologne, et la photographie historique a été tirée il y a exactement 100 ans, et vous remarquez ici, elle fait preuve de l'importance de cet objet gardé dans le musée du palais. Sur le marché de l'art, une pièce aussi rare de cette qualité et provenance atteindra facilement plusieurs centaines de mille euros. Et dans une publication imprimée ce mois, l'objet en question se présente après sa restauration. Pour conclure, mon Credo se dirige vers la nécessité que chaque musée en Europe, aux États-Unis, devrait ajouter aux 4 tâches qui le définissent, collectionner, préserver, rechercher et présenter, un 5e point qui devrait impérativement être ajouté, celui de la coopération. Cette coopération devrait être intégrée dans la politique de chaque musée travaillant avec des collections non européennes. Ceci dit, un musée devrait mettre dans son budget, une somme réservée à la coopération. Il y a d'autres musées, comme le musée de Banjoun et comme le musée du palais de Batoufam, qui ont besoin de notre aide. Je termine avec une histoire triste. J'ai photographié il y a 15 ans ces statuettes commémoratives devant le palais. Celle de droite, la porteuse de coupe en bois clair, est partie en vente et a été vendue chez Sotheby's il y a 3 ans. Je vous remercie.